Ronny Broman, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes toujours chez vous, à Malakoff, en proche banlieue parisienne. Hier soir, vous évoquiez avec nous vos premières années à la présidence de Médecins Sans Frontières, la façon dont vous avez vu MSF se développer, intervenir, notamment dans des camps de réfugiés, un peu partout dans le monde. Vous parliez hier déjà de certains moments à la frontière du Cambodge, au Guatemala, de moments où, alors que vous étiez en train d'intervenir, en train de faire, de soigner, vous n'avez pas pu ou su voir tout de suite précisément ce qui se jouait devant vos yeux. Il y a un moment qui a été particulièrement marquant pour vous et dont nous n'avons pas encore parlé ensemble. C'était en Éthiopie. Nous sommes alors au milieu des années 80. C'est l'époque de la grande médiatisation de l'humanitaire, du Band Aid, de la chanson We Are The World contre la famine en Éthiopie. Pourtant, MSF va devoir quitter soudainement le pays. Et pour vous, ce moment-là, c'est un tournant. Dites-nous peut-être d'abord ce que faisait Médecins Sans Frontières en Éthiopie et ce que vous faisiez vous-même à ce moment-là.
Moi, j'étais président de Médecins Sans Frontières et je passais un certain temps dans l'année, disons en gros le tiers de mon temps, à visiter les missions sur le terrain de manière à rester en contact avec les réalités concrètes, donc à ne pas m'isoler dans ma tour d'ivoire bureaucratique. Quant à Médecins Sans Frontières, on avait des équipes en Éthiopie qui avaient d'ailleurs été admises précocement avant que toute cette médiatisation de la famine n'ait lieu. Je ne sais pas très bien pourquoi MSF a été introduit en quelque sorte par les autorités éthiopiennes dès le début de l'année 1984, en mars très précisément, alors que la grande médiatisation a eu lieu à la fin de l'année 84. Toujours est-il que à ce moment-là, comme on a pu le dire de façon un peu cynique ou en tout cas un peu complice, l'Éthiopie et la famine sont devenus des sujets à la mode. Je crois que la formulation était de Bob Geldof.
Du Band Aid, Bob Geldof.
Bob Geldof de Band Aid, tout à fait, qui a mis en place à la fois Band Aid et le grand concert de Wembley, Philadelphie, qui a eu lieu en 85, qui était un événement sinon totalement inédit, puisqu'il y avait déjà eu le grand concert du Bangladesh en 73, du moins quelque chose qui était encore plus ample, retransmis en mondovision. Mais je brûle les étapes là. Venons-en d'abord à l'automne 84, lorsque la famine est médiatisée, que le monde découvre un spectacle de cauchemar, des milliers de gens décharnés, une des famines les plus sévères, les plus meurtrières de la deuxième moitié du siècle, hein, très probablement. On estime qu'elle a fait environ 800 000 morts sur une population qui devait faire à l'époque 30 millions de personnes. C'était vraiment un désastre total. On s'aperçoit assez rapidement que cette famine est médiatisée pour accompagner la proclamation du Parti communiste éthiopien, qui s'appelait en fait Parti des travailleurs éthiopiens, à l'occasion du 10e anniversaire du renversement du régime impérial de Haïlé Sélassié, régime qui avait été renversé, il faut s'en souvenir, à l'occasion d'une famine, renversement qui avait été le fait d'un groupe de militaires progressistes qui avait pris le pouvoir et qui ne l'avait pas lâché entre-temps et qui se retrouvait à l'occasion de cette grande fête qui était la proclamation de la mise en place du Parti communiste, qui se trouvait confronté à cette famine. Cette proclamation a donné lieu à l'arrivée de nombreuses équipes de journalistes, parce que l'Éthiopie est un pays important, et le régime a autorisé un certain nombre d'entre eux à faire des reportages dans le nord du pays, là où la sécheresse, disons, avait frappé. Et c'est comme ça que nous sont parvenues les premières images. Quand je dis « nous », je veux dire le grand public, parce qu'à Médecins Sans Frontières, on savait déjà de quoi y retourner, puisque nous étions sur le terrain. Et ces images ont été assorties de commentaires qui en faisaient les résultats d'une catastrophe naturelle. La conjonction d'une sécheresse cataclysmique et d'un phénomène de criquet qui avait littéralement dévasté le peu de récoltes subsistantes, celles qui avaient survécu à la sécheresse, avait causé donc cette situation critique de famine. Et Michael Burke, le journaliste qui avait tourné ces images, qui était un correspondant à Nairobi, a dit plus tard, des années plus tard, qu'il était parfaitement conscient que cette famine n'était pas d'origine naturelle, en tout cas que les causes naturelles étaient loin d'expliquer l'ampleur du phénomène, mais qu'il l'avait délibérément caché parce qu'il estimait qu'il était plus urgent de faire venir des secours que de commencer à réfléchir sur les effets d'une famine. Et autant je comprends humainement ce réflexe, autant je dirais que je le désapprouve professionnellement, parce que un journaliste n'est pas là pour exalter ou désespérer Billancourt, pour reprendre une vieille formule française, mais pour rapporter ce qu'il estime être la réalité qu'il observe, qu'il décrit. Donc là, il y avait un côté un peu pastoral, un peu paternaliste presque, pourrait-on dire, que je trouvais gênant. En tout cas, nous étions confrontés à une vague de famine à laquelle nous n'arrivions pas à répondre. Nous, quand je dis nous, je devrais préciser les ONG en général. Les visas étaient comptés, les équipes étaient très réduites du fait de la pression des autorités qui ne voulaient pas voir trop de monde.
Vous arriviez tout de même dans ce contexte-là à apporter de l'aide concrètement ?
Oui, bien sûr, mais de façon insuffisante. On aurait de toute façon été débordés, on n'était pas à la hauteur de ce qui... Par exemple, dans le camp de Corém, où on avait installé une première équipe de 5 personnes avec 2 médecins, un chirurgien, un logisticien, une infirmière... Il y avait au départ 30 000 personnes, mais qui étaient dans un état catastrophique. Et puis, en l'espace de quelques semaines, on est passé à 50 000, 70 000, 100 000 à l'arrivée de l'été. Et toutes, ou en tout cas la plupart, dans un état désastreux. L'équipe rapportait que parfois, il relevait une centaine de cadavres entre le camp et l'hôpital dans lequel que nous avions mis en place. Quand on a une mortalité pareille, ça prouve bien qu'on est totalement débordé, qu'on n'arrive pas à enrayer le processus destructeur. On manquait des aliments qui convenaient pour ce genre de situation. On manquait de personnel, on manquait de vivres en général.
Oui, donc vous disiez 5 personnes au milieu de 100 000 personnes.
Voilà. Alors ensuite, on a pu augmenter.
Et vous allez vous rendre compte, vous disiez première chose que les causes de la famine n'étaient pas celles qui étaient présentées, mais deuxième chose extrêmement importante, que l'aide humanitaire est instrumentalisée à ce moment-là par le pouvoir.
C'est ça, alors ça commence pas tout de suite. Dans les premiers temps, l'aide est insuffisante, mais elle est réelle. On a malgré tout soulagé de nombreuses détresses, sauvé un certain nombre de vies, on aurait pu en faire plus si l'autorisation nous avait été donnée d'avoir des équipes plus nombreuses, mais on n'avait tout de même pas l'impression d'être là pour rien. Ça n'est qu'au début de l'année 85 que, en effet, des choses étranges ont commencé à se passer. Et ces choses étranges, c'était par exemple des opérations d'encerclement du camp dans lequel nous travaillions, qui était un camp ouvert. Hein. Je parle de camp, c'est plutôt un rassemblement sur un haut plateau. Encerclement de la population, dont une partie était menée à la pointe du fusil vers des camions pour être embarqués vers des destinations que nous ne connaissions pas et que nous ne comprenions pas de quoi il s'agissait. Et dans le même temps, un chantage de plus en plus pressant était exercé sur la population pour que celle-ci se porte volontaire pour partir. Et ces pressions, elles s'exerçaient avec les moyens de l'aide internationale, par essentiellement des milices dépendants du parti, enfin disons des groupes politiques et armés dépendants du tout nouveau parti des travailleurs éthiopiens, chantage aux couvertures, chantage aux vivres, chantage aux soins, bref, chantage à la vie, car il s'agissait de hauts plateaux à environ 1200, 1500 mètres, et dès qu'on monte en altitude, y compris en Afrique, il fait froid, et en plus là c'était l'hiver, et donc chantage aux couvertures, aux tentes, c'était un chantage à la vie, on pouvait mourir de froid, l'eau gelait dans les verres la nuit sur le plateau de Corém. Donc ces choses nous paraissaient étranges, on savait pas très bien comment se situer, les communications entre Paris et le terrain étaient assez rares, on n'avait pas de portable, on n'avait pas le droit à des radios pour faire de la radiocommunication. Donc tout ça prenait pas mal de temps, c'est une communication par écrit, par Telex ou via Addis Abeba, et on avait du mal à suivre. Et puis peu à peu, on se rend compte que nous les ONG, on fait partie d'un plan de réinstallation forcée de populations dont l'objectif annoncé est de venir à bout de ces cycles récurrents de famine qui frappent l'Éthiopie. Vous savez, l'Éthiopie a une civilisation écrite de longue date, et il y a des récits de famine qui remontent au XIVe siècle. Et donc, on peut comprendre que des phénomènes récurrents comme ceci demandent à être traités à la racine. Et donc, en l'occurrence, ces déplacements de population sont présentés comme un projet de développement, une sorte de modernisation autoritaire, si l'on veut. Et de fait, c'était bien ça. D'ailleurs, la Banque mondiale, qui fait aussi partie de ces agents de la modernisation autoritaire, on l'a vu dans bien des endroits, la Banque mondiale recommandait des transferts de population de zones qui étaient considérées comme surpeuplées et appauvries du fait du surpâturage, du fait de l'épuisement des terres, du lessivage des sols par les pluies et par la surpopulation. Et il s'agissait donc d'aller peupler des zones dans le sud du pays qui, elles, étaient sous-habitées et qui donc ne demandaient qu'à être mises en valeur par cette population excédentaire. Un rééquilibrage démographique, si l'on veut. Donc, dans un vocabulaire technocratique développementiste, une présentation avantageuse de ces mesures de réinstallation autoritaire était faite à la fois par le régime, par les Nations Unies, par la Banque mondiale, ce qui rendait le raisonnement sur notre rôle, sur ce qu'attendaient les gens, extrêmement difficile parce que pris en quelque sorte en étau entre d'un côté ce constat de la souffrance et du refus des gens de partir puisqu'il fallait les forcer et de l'autre côté cet avenir radieux qui était offert à nos appétits d'amélioration, à nos appétits compassionnels. Et voilà, on était pris entre deux feux.
Et vous, acteur humanitaire, dans cette politique de déplacement forcé, vous serviez en fait d'appât. Vous étiez malgré vous un acteur de cette politique-là.
C'est exactement ça. Non, on servait d'appât, mais aussi de moyens. Appât parce que la population qui se rassemblait sur ces centres de distribution de vivres et de soins était confiante dans le fait que, ou en tout cas pour ceux qui venaient, était confiant dans le fait que des équipes internationales servaient de témoins et que ça freinerait probablement l'autoritarisme et la violence du régime. Ça a été vrai pendant un certain temps, ça n'a pas été tout le temps. Et donc, cette confiance, en fait, était mal placée. Et ça a duré plusieurs mois parce qu'encore une fois, les informations étaient extrêmement fragmentaires et il a fallu finalement que l'un d'entre nous prenne connaissance des discours de Mengistu, donc le chef du DER, on peut dire le président, disons. Et donc, François Jean, cette personne qui était très, très attentive aux questions de famine et de politique et d'aide aux victimes de famine, a vu dans les discours de Mengistu ce qu'était le projet réel de cette réinstallation, à savoir la construction de l'homme nouveau, la construction d'une société radicalement nouvelle, en Éthiopie, authentiquement communiste, pour reprendre les termes qui étaient employés par Mengistu, et cela, quel qu'en soit le coût.
Au moment où vous le comprenez, Médecins Sans Frontières décide de quitter l'Éthiopie. C'est une décision qui a... Pas tout de suite ?
Non, on n'a jamais décidé de quitter l'Éthiopie. On a décidé d'engager un bras de fer avec le gouvernement dont nous savions qu'il était probable qu'il se conclurait par une expulsion. Mais ça n'était pas un retrait. Il nous arrivait de nous retirer, faute de pouvoir faire mieux. Là, quelque chose devait être tenté. D'abord, la question de la réinstallation n'était pas en elle-même un sujet de controverse. Après tout, une réforme agraire, ça passe aussi par des mesures relativement autoritaires. Mais c'est la violence avec laquelle cette réinstallation était faite. C'est la compréhension de l'horizon idéologique vers lequel on se dirigeait et qui promettait qu'il n'y aurait aucun quartier qui serait fait, d'ailleurs, parce que c'était dit pratiquement dans ces termes par le président. Et donc, en dépit de tout cela, et avec, disons, la lucidité rétrospective et le fait que je parle de ça presque 40 ans, après, sur le moment, encore une fois, notre rôle n'était pas si clair. On était dans une sorte de brouillard, vraiment au sens strict, le brouillard de la guerre de Clausewitz, où les forces de friction sont partout, où ce qu'on fait, le résultat de ce qu'on fait n'est pas mesurable. Et étrangement pour moi, ça a été l'obligation de présenter cette situation à des journalistes qui m'a fait prendre conscience, qui m'a fait dépasser le dilemme dans lequel je me trouvais, dilemme inhibiteur, dilemme qui était bloquant, pour présenter une attitude, politique, enfin une attitude en tout cas décidée. C'est donc en répondant à des questions de journalistes et en restituant les positions d'acteurs, disons la nôtre, celle du gouvernement, celle de la Relief Commission et des autres ONG, j'en viens à déclarer que ou bien nous allons pouvoir améliorer cette situation, ou bien nous devrons constater que nous ne pouvons pas poursuivre nos opérations. C'est d'ailleurs la raison sans doute pour laquelle vous me dites vous vous êtes retiré. C'est parce qu'en effet, j'envisageais le retrait à ce moment-là. Mais entre cette conférence de presse et le départ des MSF d'Éthiopie, il s'est passé plusieurs choses. Et notamment, moi, je suis allé sur place, enfin à Addis Abeba, parce que j'ai été coincé à Addis Abeba. J'ai pas eu l'autorisation de sortir de Addis. Et là, j'ai discuté avec les équipes qui étaient entièrement d'accord avec la position que j'avais prise et que donc nous avions prise à Paris. Ça, c'était une grande source de réconfort. Ils n'étaient pas crispés sur leur projet. Eux-mêmes étaient révoltés par ce qu'ils voyaient, même par les fragments de ce qu'ils pouvaient apercevoir. Donc ça, c'était un point extrêmement important, que les équipes soient vraiment partantes pour cela. Et puis, je suis allé voir d'autres ONG pour tâter le terrain et examiner la possibilité de tenir une conférence de presse commune à Addis Abeba, au cours de laquelle on présenterait au gouvernement des options alternatives. Mais tout ça a été absolument inutile. De la part des ONG, je n'ai eu que des fins de non-recevoir, au motif que prendre une position là-dessus, entrer dans ce débat interne, c'était rompre le pacte de neutralité, l'engagement de neutralité auquel nous étions tous tenus, puisque la neutralité, c'est en temps de guerre, ne pas favoriser un des belligérants en lui envoyant des armes ou des informations, et en temps de paix, c'est ne pas prendre part à des controverses d'ordre politique, idéologique, tout. Et là, c'était effectivement un sujet de controverse. Donc, techniquement, elles avaient raison, mais humainement, cette décision était absolument désastreuse, puisque ça laissait les ONG parler de façon ventriloque, par la bouche, du gouvernement ou de son plus précieux auxiliaire de l'époque, Bob Geldof, le faux rebelle, la star de salon qui se couche devant le dictateur stalinien, car c'est une dictature stalinienne qui était en place en Éthiopie. Et ce Bob Geldof qui, 10 ans après, 20 ans après, continuait avec le même baratin pseudo-compassionnel et en réalité totalement fermé aux réalités humaines qu'il avait pu voir en Éthiopie. Bob Geldof était venu visiter Korem, c'était notre équipe qui était là-bas. On attendait sa présence et il a refusé de parler aux gens d'MSF avant la protestation, hein, simplement parce que il voulait seulement se laisser informer par les officiels du gouvernement, par les fonctionnaires du parti ou du gouvernement. C'était vraiment se mettre à genoux devant l'autorité. Tout ça a échoué et donc nous avons été expulsés.